Bonjour, Raymond Richard au micro. Et bien, pour cette émission Tourne-Page, nous avons la chance à Radio Grand Ciel de recevoir Liliane Duveau et Nicole Vassard qui ont commis un travail sur le monastère des religieuses bénédictines de la rue Parisis à Dreux. Merci Liliane, merci Nicole d'être venue à Radio Grand Ciel pour parler de ce travail qui mêle l'histoire locale drouaise avec la grande histoire. Alors, le monastère des religieuses se situe rue Parisis dans votre maison, Liliane.
Oui, ben bonjour d'abord, et puis merci de nous recevoir, de vous intéresser à nous et à notre travail. Merci. Oui, c'est parti du fait que nous étions réunis par un groupe de travail des amis du musée qui avait pour ambition de répertorier les maisons anciennes de Dreux et de faire une fiche sur chacune.
Sur chacune, ça fait beaucoup, c'est très ambitieux, mais enfin.
Oui, enfin, il y avait que quelques maisons anciennes dont des amis du musée étaient propriétaires ou en avaient connaissance. Et donc, sur les actes notariés de la mienne, 61 rue Parisis, il y avait le fait qu'elle avait été rachetée suite à la vente des biens nationaux et que cette propriété faisait partie des possessions des religieuses bénédictines installées à cet endroit. Donc ça m'avait quand même un peu intriguée, mais je ne voyais pas comment je pourrais en savoir davantage. Et donc Nicole est arrivée.
Nicole, oui, parce que finalement vous aviez travaillé sur votre maison, mais aussi sur cette maison.
C'est-à-dire qu'en travaillant sur ma maison, en compulsant les archives départementales à Chartres, je suis tombée sur un acte de 1735 qui relatait un peu l'histoire du monastère et c'était signé par 8 religieuses. Donc j'ai demandé tout de suite aux archives un autre acte, ce qui était des procès-verbaux de vente de biens nationaux. Et là, j'ai tout trouvé, le monastère et les bâtiments qu'elles avaient qui ont été vendus à différentes reprises.
Et à différentes personnes.
Donc,
une pièce. Et puis à partir de là, vous tirez tellement de choses et tellement d'informations. Qu'est-ce qui vous a amené à dire bien on va s'intéresser davantage à ces religieuses aussi.
Une chose en a entraîné une autre et on était curieuse de savoir comment ça s'était fait parce qu'elles s'étaient installées là, mais bon, pour nous, il y avait des maisons séparées comme elles sont actuellement et donc on ne voyait pas très bien comment était organisé ce couvent.
Un monastère ici, oui.
Ben oui, ce monastère. Donc c'est comme ça qu'on a cherché à comprendre un peu.
Chercher à en savoir un peu plus.
Oui. Ça paraissait normal, puisqu'elles avaient vécu là. La première chose, c'était d'aller à la maison mère, à Rouen, et de les rencontrer. Nous avons été très bien reçus. Elles nous ont donné ce qu'elles avaient. Relativement peu de choses. Mais ça donnait des pistes.
Il y avait M. Colombo, avec qui elles étaient amies, qui avait commencé à faire quelques recherches.
Oui.
Et donc, ça nous a donné un peu de pistes aussi. Et à partir de là, on a trouvé des documents qui nous intéressaient pas mal. Il y avait une partie d'une liste des religieuses qui étaient passées dans ce monastère. Donc ça nous intéressait, mais c'était incomplet. Donc petit à petit, on a été amené à retracer l'histoire de l'acquisition des bâtiments et la liste de ces religieuses qui étaient passées là.
Alors, les bâtiments, c'est au XVIIIe siècle que se constitue ce monastère drouais. Mais en fait, la personne qui le met en route, Catherine de Bar, est une personnalité formidable.
Tout à fait. C'est une femme qui, pour son temps, nous paraissait très très intéressante. C'est elle qui a fondé l'ordre tout en étant rentrée dans un autre couvent précédemment. Elle a fini chez des bénédictines et elle s'est mise à fonder cet ordre. Elle était très intéressante. Elle a voyagé à travers l'Europe, à travers la France. Elle a rencontré des grands de ce monde, Anne d'Autriche par exemple.
Elle a écrit, elle avait des correspondants partout et elle a échangé avec toutes les personnalités importantes de l'époque. Et puis elle a beaucoup voyagé à travers l'Europe. C'était aussi une grande mystique. Donc, en tout, elle a écrit plus de 5000 lettres et elle fait l'objet d'études encore actuellement. Et il y a une énorme biographie la concernant que nous avons consultée et pas mal citée dans notre travail parce que c'est très intéressant, toutes ces relations et voir comment elle arrive à s'occuper à la fois de ses religieuses et fonder tous ces monastères dans divers endroits de France.
Et c'est intéressant parce qu'elle entre dans un ordre en Lorraine,
elle va dans un autre,
quitte cet ordre pour aller chez les bénédictines, et elle quitte cet ordre pour fonder son propre
ordre.
Oui,
mais elle est vraiment extraordinaire.
Elle est extraordinaire, oui.
Elle est extraordinaire.
Maîtresse femme, elle n'a peut-être pas envie d'obéir à quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'autorité. Mais oui, je pense qu'elle avait une énergie aussi extraordinaire. Parce qu'elle a continué à travailler pour la fondation de monastères jusqu'à ce qu'elle soit vraiment très près de la mort. Et elle a terminé par le monastère de Dreux.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
C'était son ancienne création. Alors maintenant, autour de ce travail sur les bâtiments, sur les monastères, on apprend des tas de choses sur la vie de Rouez. Et moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette vie de Rouez et de cette vie de l'Église que vous avez découvert au travers de vos recherches et dont vous nous parlez dans votre livre.
Oui, c'était effectivement important d'entre eux qu'il y ait ce couvent. Enfin, monastère d'ailleurs, on ne dit pas couvent.
On perçoit que les Drouais étaient un peu inquiets quand même, en
oui.
disant, oh là là, il va falloir les entretenir.
Oui, ils avaient peur que ça leur coûte cher.
Voilà. Et puis aussi, on voulait les charger de l'éducation des filles.
Oui, elles ont tout de suite dit non. Elles avaient déjà leurs activités. Leurs activités, c'était quand même l'adoration perpétuelle, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Et il fallait au moins qu'elles soient 12 dans ce monastère pour n'avoir que 2 heures chacune à assurer. Mais on se rend compte qu'à cette époque, la vie devait être très difficile dans Dreux. Les gens qui ont vendu la maison aux religieuses, on voit qu'ils ont eu une vie difficile, une fin de vie avec des dettes modestes. Enfin, la vie ne devait pas être très facile en ville.
La vie à cette époque n'était pas très facile.
De toute façon, il y avait des guerres, etc.
Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle.
Oui, oui.
Et parmi les documents que vous avez trouvés, il y a les documents qui concernent les religieuses. Et dans ce livre, il y a un fil qui me paraissait intéressant, justement, c'est la connaissance que l'on peut avoir de la vie d'une religieuse. Aussi bien les cérémonies qui existent lorsqu'elle rentre, lorsqu'elle meurt, enfin bon, prise d'habit, etc. Et comment ont réagi les religieuses d'aujourd'hui lorsque vous dites « Nous, on est curieux de ce qui se passe ».
Elles étaient très heureuses. Elles étaient surprises. S'intéresser à elles. Elles ont été très étonnées et ça leur a appris des choses qu'elles ne savaient pas. Puis elles ont été époustouflées par le fait qu'on a recherché les noms des religieuses qui étaient entrées dans cette maison. Et ça leur a semblé extraordinaire. Mais c'est vrai que ça représentait un gros travail parce qu'elles avaient une liste des religieuses qui étaient rentrées, mais il manquait des pages. Donc on a fait tout un travail à partir des signatures d'actes d'achat, de dot, pour essayer de retrouver une liste un peu plus complète
des religieuses. Quand vous dites des listes d'achat, de dot, de rente, etc., cela veut dire qu'en fait, il y a une relation économique autour d'un monastère.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Et on se rend compte qu'elles étaient tout à fait capables de gérer leurs biens. D'ailleurs, pour vivre, il fallait effectivement que ce soit bien géré. Et lorsqu'elles avaient des problèmes, elles n'hésitaient pas à aller au comté, à faire des procès, à essayer de récupérer ce qu'on leur doit, etc. Ah non, elles savaient très très bien gérer leurs affaires.
Elles gèrent leurs affaires.
Oui.
Elles sont en relation avec des gens de Dreux qui leur donnent qui une maison, qui un champ, qui une grande.
Non, c'est assez rare.
C'était plutôt les relations qu'avait la maison mère à un niveau supérieur.
Oui.
Oui.
Au moment où Mère Mechtilde a fondé les différents monastères.
Au moment de la fondation. Oui.
Là c'est sûr, elle a de grandes aides, d'accord. Oui. Mais de Dreux n'ont probablement pas beaucoup. On en a trouvé deux. Un prêtre qui a donné une rente, effectivement. Après, on a eu aussi Madame Lebègue, qui a été la propriétaire de l'hôtel de Montulé et qui a fait cadeau d'une petite maison en décadence et en ruine à côté du couvent qui jouxtait l'église pour agrandir le cœur de l'église.
Oui,
mais ce n'a jamais été effectué. Donc la petite maison, après, elle a été louée. Mais à part ça, il y a très, très peu de gens, vraiment peu.
Quelle relation avec les Drouais ?
Elles avaient quelques...
Pas grand-chose.
C'est-à-dire que les processions qui parcouraient la ville dans les grandes occasions s'arrêtaient devant
le monastère.
Bon, et puis, elles avaient quelques terres un peu autour de Dreux. Donc, elles avaient des relations avec ces fermiers qui leur apportaient du foin. Voilà.
Donc, des redevances plutôt en nature, d'ailleurs.
Oui.
Je pense que probablement, elles avaient eu ces biens avec les dotes des personnes qui sont rentrées dans le monastère.
Parce que finalement, une fille qui rentre au monastère...
doit arriver avec une dot, d'un certain montant d'ailleurs. Plus important, bien sûr, pour les religieuses de cœur que pour les converses.
Ah oui, et j'ai vu aussi qu'il y avait une hiérarchie dans les converses. Il y avait des converses qui étaient dispensées de certains travaux.
Difficiles.
Oui. Nous avons essayé d'expliquer justement l'organisation de la vie et la façon dont elles rentraient, du passage du monde extérieur au monde clos de leur monastère. Et puis après, comment ça a été dramatique pour elles plus tard, au moment de la Révolution, parce que pour des religieuses qui avaient passé 50 ans en clôture dans cette maison, et qui d'un seul coup se retrouvaient chassés à la rue sans rien, coupés de leur famille et de leurs relations. C'était assez terrible.
Voilà, donc on perçoit une histoire drouaise qui va du milieu du XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution. Et finalement, est-ce que ça a changé votre vision sur le XVIIIe siècle ?
Moi, un petit peu, parce que je ne pensais pas que la vie était si difficile, justement, par
la vie quotidienne.
La vie quotidienne, oui.
Une vie quotidienne difficile.
Pour moi, oui.
Bon, nous avons essayé aussi de suivre les propriétaires de ces biens avant la création du monastère et après, ceux qui achètent à la Révolution.
Comment les gens se regroupent pour acheter
exactement,
ces biens.
Exactement, voilà.
Qui achète les biens nationaux.
Qui achète les biens nationaux. Finalement. Et ceux-là, ils se sont quand même très très bien organisés.
Parce que finalement, devant la nécessité, certains étaient relativement bradés.
Si.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce que vous avez pu lire, dans ce que vous avez pu découvrir ?
Moi, je pense l'itinéraire de cette femme extraordinaire qui est Catherine de Bar. Ça montrait vraiment combien elle était un personnage important à l'époque. Elle se démène vraiment pour faire vivre son monastère et en créer d'autres.
Elle se sent responsable de ses religieuses.
Oui, elle s'en occupe beaucoup. C'est une organisatrice extraordinaire.
Oui, parce qu'elle écrit aussi la règle de son ordre.
Les constitutions.
Comme elle est assez modeste, elle s'entoure de gens dont elle pense qu'ils vont l'aider à faire ça très correctement.
Puis elle s'inspire d'autres ordres.
Oui, et puis elle fait intervenir des personnages importants de l'époque pour que ce soit très très bien fait.
Oui. Qu'est-ce qui vous a étonné, vous, Nicole ? Qui vous a émue ou...
Mais la vie des religieuses, qui est quand même passé 50 ans, ça existe encore à l'heure actuelle un petit peu, mais 50 ans dans un lieu sans jamais en sortir. Et puis leur vie qui était quand même très difficile.
Très austère, par moments, elles avaient à peine à manger.
Non,
mais elle, c'est Catherine de Bar qui, dans certaines lettres, montre que vraiment, elles ont besoin d'aide, quoi.
Elles ont vécu beaucoup en autarcie. On s'est aperçu qu'elles avaient une vache, par exemple, et qu'on leur livrait du foin, qu'elles avaient un grand potager, un grand verger. Donc, elles vivaient comme cela.
Une vie en autarcie, y compris pour les religieuses.
Ah oui, tout à fait.
Eh bien, ce que je peux dire aux auditeurs, c'est qu'il faut vous reporter à ce livre, ce qui s'appelle « Le monastère des religieuses bénédictines de la rue Parisis à Dreux, de 1696 à 1792 ». Donc, on a là un panorama d'une partie du XVIIe et du XVIIIe siècle, et on voit aussi comment la petite histoire locale rejoint la grande histoire, la recoupe, puisque par Catherine de Bar, mais aussi par ce qui arrive aux religieuses, on retrouve quelques pages de l'histoire de France. Histoire de France, histoire locale, se croisent agréablement dans ce livre. Donc, c'est 15 euros. C'est édité par la Société des Amis du Musée et ça se trouve dans les bonnes librairies.
Et aussi au musée.
À la boutique du musée.
Merci à vous et aux auditeurs. Je dis bonne semaine à tous. Au revoir.